Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir chers spectateurs. Pour la 12e année consécutive, la Bibliothèque publique d'information s'associe à la fête du cinéma d'animation à travers une programmation thématique. Cette année, en 2013, le thème choisi, c'est le... Dites-le-moi, c'est le...
Documentaire
animé. Voilà. Donc... Documentaire animé, dès lors, quoi de plus naturel que d'inaugurer ce cycle avec un artiste, Serge Avedikian, hein, qui est un metteur en scène, un acteur de théâtre et de cinéma, et qui un jour a rencontré le cinéma documentaire, qui est devenu documentariste, et qui un jour aussi a rencontré le cinéma d'animation, peut-être plus tard, et a voulu marier pour le meilleur ces différents modes d'expression. Donc je vais laisser la parole dans une minute à Serge Avedikian. Avant, je voudrais vous annoncer nos séances suivantes, parce que je sais quand je vais laisser la parole à Serge, il ne me la rendra pas. Et donc nous vous attendons demain soir dans cette même salle pour une programmation autour des drôles de documentaires du studio 3A hein, et autour de Jacques Rouxel, qui est le créateur des Shadok. Samedi soir, vous aurez un panorama du documentaire animé international. Et dimanche après-midi, nous vous attendons pour une présentation de trois projets qui sont à différents stades de production. Et ça sera là dans la petite salle en entrée libre. Voilà, maintenant place à Serge Avedikian et ses amis, producteurs, musiciens, artistes, etc.
Merci. Merci Arlette. Une invitation un peu inattendue à vrai dire parce que une bibliothèque au sein d'un centre comme Pompidou parce que j'ai remarqué chemin faisant que l'autre bibliothèque s'appelait Pompidou aussi je me suis dit c'est un truc d'intello, ça va être compliqué à gérer, qu'est-ce qu'on fait, mais en fait je me suis rendu compte qu'en fait qu'on allait surtout regarder des films et qu'on était dans une salle de cinéma quand même. La concurrence a l'air rude ce soir parce qu'il y a le Festival d'automne qui fait des spectacles au sein même de ce centre Pompidou qui ont l'air fameux. D'ailleurs, pendant que vous allez regarder mes films, moi je vais aller voir un spectacle à côté. Je viendrai vous raconter. Non, ça je blague. Non, mis à part ça, je voulais dire que je suis d'abord très touché. Je remercie vraiment la programmation et Arlette d'avoir songé à m'inviter pour faire une sorte de point, en fait, sur ce travail de cinéma d'animation. Et c'est vrai que je commencerai par dire que je suis un cas, comme beaucoup parmi vous, parce que rien ne présageait au départ que j'allais probablement un jour réaliser des films d'animation. Même si, étant né en Arménie, à Yerevan, ex-république soviétique, j'ai été abreuvé de cinéma d'animation, comme vous savez que les pays de l'Est ont pu en fabriquer. Pas seulement les Russes, mais aussi les Tchèques, qui étaient assez forts, aussi les Allemands de l'Est, et d'autres pays de l'Est qui ont régulièrement nourri le public ex-soviétique de cinéma d'animation, de toutes sortes d'ailleurs, pour enfants, mais pas seulement pour enfants, pour adultes aussi. Et peut-être que le cinéma d'animation était, je m'en souviens maintenant, une sorte d'échappatoire pour pouvoir dire des choses qui semblaient ne pas être sérieux, ne pas être politique, mais qui l'étaient. Ne pas être poétique aussi, mais qui l'étaient, et qui faisait passer une sorte de subversion dans le réalisme socialiste dont on nous abreuvait aussi beaucoup. Donc j'ai été marqué par ça, je pense. Ça m'est revenu après inconsciemment que j'ai toujours aimé finalement le cinéma d'animation. Pas seulement comme enfant, mais aussi comme adolescent. Et après, je me suis souvenu aussi que la peinture avait occupé une place assez importante dans mon parcours, parce que je posais pour des peintres arméniens à Yerevan quand j'étais jeune. Je n'avais pas un plus beau corps qu'un autre jeune garçon. Hein. C'est simplement que la famille était entourée de peintres qui faisaient les beaux-arts à l'époque. Et comme ils n'avaient pas de modèle, eh ben, j'allais poser l'après-midi. Et comme Arlette l'a dit, j'ai toujours été un peu bavard. Enfin, j'aimais bien parler, quoi. Et donc, je posais Mais je crois que je leur gonflais la tête tout au long des séances. Je leur parlais de football, parce que j'aimais bien le football, de musique, de pêche, de chasse et tout ça. Et je me demande, bon, en fait, j'ai vu quand même les tableaux, ça donnait toujours quand même des tableaux. Mais les Minas, les Mansourians, des noms qui vous disent rien, mais qui sont devenus des très grands artistes après dans ce pays, ont été pour quelque chose dans mon amour de la peinture d'une part et de la musique d'autre part. Et donc je suis arrivé en France avec cet héritage. Tiens, Antoine Yakovlev, venez vous asseoir. On est entre nous, Antoine. Parouski, moi je suis d'accord. Un copain comédien russe. Donc, je suis arrivé avec ces bagages-là, je pense. Et c'est vrai que c'est le cinéma documentaire qui m'a tout de suite happé, étant comédien. Quand on a des choses à raconter, de la petite histoire pour raconter la grande histoire. Alors, les Arméniens, ils sont balèzes hein, pour ça. Ils adorent raconter leur histoire, notamment les histoires de génocide. Parce que, bon, voilà, pas reconnu, un peu caché, un peu de silence autour de tout ça. Ces fameux Turcs qui veulent toujours pas reconnaître cette histoire. Merde, merde, merde. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait des films, on fait des films documentaires. On veut faire la preuve qu'on a été massacré, bordel. Il ne faut pas déconner quand même avec ça. On est un peuple massacré. On est un peuple qui doit se faire valoir par ça. Voilà. Alors, j'ai été préoccupé par ces histoires-là pendant un certain temps. Et ça a donné des 100 retours possibles, des Que sont mes camarades devenus, de Histoire d'amour, Colombé avait dit. Donc, des films documentaires. Et à un moment, dans ce parcours de documentaire, qui s'est un petit peu achevé avec Nous avons bu la même eau, un film que j'ai fait sur le village de mon grand-père en Turquie, je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets que je voulais aborder et qui étaient trop violents. Et comme j'ai une sorte de conscience et de morale qui est que le cinéma a beau être un art, qui plus est, un peu stalinien quand même, même si là c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a un équilibre entre l'écran et la salle qui est pas mal, mais les vrais cinémas d'époque, c'était 9 fois plus grand l'image que les gens qui étaient assis dans la salle. Donc c'est un art quand même qui tape sur la tête du spectateur, qui lui inflige une façon de rentrer dans un univers à tout prix. Donc il y avait ce truc stalinien qui m'avait marqué depuis que j'étais tout petit, et je me suis dit, c'est pas possible de commettre des œuvres qui oblige les gens à subir des violences, des sentiments pas faciles à supporter. Et je me suis dit, qu'est-ce qui exprimait le mieux les choses difficiles à dire, ou l'inexplicable, ou l'indicible ? Ben, c'était la peinture. Je trouvais que la peinture, c'était un art qui pouvait transmettre la possibilité de sentir des choses sans subir. Et de là est né le premier film que j'ai réalisé, qui s'appelle Ligne de vie, qu'on va regarder, parce que j'ai rencontré un peintre à Bruxelles. Un jour, on montrait mes films dans un truc underground à Bruxelles. Il y avait un type un peu maigre comme ça, qui faisait les billets dans l'association et qui exposait ses peintures. J'ai regardé ses peintures, j'étais très impressionné par la souffrance qui s'en dégageait, par la force en même temps qui se dégageait de ses traits. Un vrai talent de peintre, ce Raymond Delvax. Et à la fin de la journée, il est venu me voir, il a dit, j'ai vu tes films, assez timide, j'ai trouvé que vous aviez un amour, parce que je me suis rendu compte que dans mes films, il y avait de la peinture déjà. Dans Bonjour Monsieur, je raconte des choses à travers des tableaux. Dans Le Cinquième Rêve, il y a des tableaux, il y a un peintre qui apparaît. Je me suis rendu compte que mine de rien, je voulais absolument filmer de la peinture. Et ce Delvax m'a dit, j'ai écrit une nouvelle, est-ce que vous pourriez lire ? Il m'a donné quelques feuillets, et j'ai lu sa nouvelle dans le train, et j'ai trouvé ça très très fort. Ça s'appelait, je dis ça s'appelait parce que je l'ai adapté, quelque part dans le nord de l'Allemagne. Et j'ai trouvé cette nouvelle très dure, quasi insupportable, puisque ça se passe dans un camp de concentration où il y a des Allemands, des Polonais, des Juifs et autres gens qui subissent quelque chose d'un peu particulier. Je lui ai demandé l'autorisation d'adapter sa nouvelle. Je l'ai fait très vite. J'ai décontextualisé l'histoire et je me suis rendu compte que ce n'était pas un film faisable en prise de vue réelle. Que même si je l'imaginais tournant dans le Haut-Karabakh avec des figurants, avec des gens dans la boue, ça me paraissait invraisemblable, impossible. Et de là est née l'idée d'essayer de faire de la peinture animée. Et j'ai rencontré, alors elle n'est pas là, donc je vais parler aussi des absents. Dora Benuzilio est la première productrice que j'ai rencontrée, les films de l'Alquin, qui produisait des choses vraiment très intéressantes, et que j'avais connue comme productrice d'autres films dans lesquels j'avais joué, un film qu'elle avait produit qui s'appelle George Sand, et je jouais le mari de George Sand, qui est un personnage qu'on ne connaît pas du tout. Et je l'ai appelé, j'ai dit, j'ai écrit un scénario, je lui ai envoyé. Elle m'a tout de suite dit, écoute Serge, moi ça me plaît beaucoup, ça me touche, mais tu n'as jamais réalisé de film d'animation, donc je ne sais pas du tout comment on va faire. Bah, j'ai dit, écoute, fais-moi confiance, je vais faire ça avec, comme ça, à partir de peinture. Elle m'a dit, mais non, la peinture animée, ça ne marchera jamais, ça, tu sais ce que c'est qu'un film d'animation. J'ai dit, non, je ne sais justement pas ce que c'est qu'un film d'animation, mais j'aimerais bien le faire à la façon dont je sens. Bref, je vous fais court, j'ai fait un tour de manège, j'ai rencontré des animateurs, des dessinateurs qui m'ont fait des propositions de prisonniers, de soldats et de camps de concentration. J'étais jamais content parce que je trouvais que c'était toujours des images d'Épinal, des images déjà vues, des images qui ne me parlaient pas. Et après un an de tour de manège, je suis revenu voir Dora, j'ai dit « Écoute, je veux faire le film avec le peintre ». Et là, elle m'a dit « Non ». Elle m'a dit « Non, je ne fais pas le film ». Tu vas me planter. J'ai dit, écoute Dora, fais-moi confiance. Et en fait, en douce, j'avais demandé à Delvax de faire déjà des tableaux. Et j'ai dit, donne-moi 2 jours de montage. Et j'ai monté les tableaux en me baladant dedans avec déjà de la musique. Parce qu'il faut dire aussi que la musique, ça, on va y venir, hein, je ne veux pas tout... il se trouve que lui, il est là, Michel Karski est là, donc je vais lui donner la parole, je ne vais pas parler à sa place. La musique occupe une place dans les 3 films que vous allez voir, primordiale, indispensable, comme une sorte de dramaturgie permanente. Il se trouve qu'avec la musique et les images que j'ai montées, Dora Benuzilio a été absolument convaincue que j'allais pouvoir faire le film. Et on a pu le faire avec Arte. Hélène Vessière, à qui je rends hommage, qui a produit, coproduit les 3 films qu'on verra, n'est pas là. Je trouve qu'aujourd'hui apparemment je ne sais pas ce qui se passe, les gens sont très occupés, très affairés, moi-même je l'ai été toute la journée, et voilà, on est entre nous, c'est bien, on va pouvoir goûter tranquillement aux choses. Si vous avez soif, il y a un peu d'eau ici, je peux vous en donner. Alors ce que je propose, c'est qu'on temporise comme ça la soirée aussi, parce que j'aimerais bien que ça puisse être un petit peu... Comme on n'est pas très nombreux, on peut se parler, il y a des micros qui se baladent, s'il y a des questions, s'il y a des interrogations, s'il y a des commentaires, on peut aussi échanger. Il y a des micros que je vais faire circuler. Je propose donc, avant de donner la parole à Michel Karski, à Henri Magallon, à Michel Lévian, à Thomas Azuelos, à Pierre Azuelos, attendez, j'arrive, à Jean-Michel Spinner, enfin un tas de gens à qui je vais donner la parole pour qu'on parle du présent, du passé, et surtout du futur, puisqu'on va vous présenter un projet totalement inédit qui est le prochain film qu'on est en train de faire, qui s'appellera le dernier round. Non, on enlève le dernier round à Istanbul. Je devais au moins finir par faire un film qui s'appellerait comme ça. Parce qu'il y a des rounds, il y en a eu, mais celui-là, ça va être le dernier à Istanbul. Donc je propose qu'on commence par du cinéma, donc qu'on regarde Ligne de vie, que certains d'entre vous connaissent déjà, mais qu'on va voir en 35 mm, je crois. Je crois que notre camarade projectionniste m'entend. Donc, 12 minutes de Ligne de vie. C'est beau le 35 mm. Hein. Ouais, le 35 mm, on oublie que c'est beau parce que c'est de la pellicule, quoi. Ça vit, ça, c'est rayé. C'est des films qui ont beaucoup tourné. Ce film a vraiment beaucoup voyagé. Je dois rendre hommage ici au talent de Michel Karski, qui est là, à qui je vais donner la parole, et aux absents qui sont Raymond Delvax, le peintre lui-même, qui a fait un travail sans absolument rien comprendre à ce qu'on faisait. Il ne comprenait strictement pas ce qu'on était en train de faire. Il faisait les dessins qui qu'on lui demandait de faire. Je trouvais ça extraordinaire d'innocence et de beauté de sa part, de s'être plié à cette contrainte de faire des dessins sur des feuilles A3 ou A4, alors que d'habitude, il dessinait sur des feuilles beaucoup plus grandes. C'était complexe pour lui, mais on y est arrivé. Bien sûr, Fred Tribolet, qui n'est pas là, avec qui j'ai commencé à faire ces histoires de composition d'images, de mélange entre la peinture, les choses filmées avec des fonds bleus, c'est-à-dire par exemple là, la terre, la pluie, le chiffon, les éléments comme ça. Ce travail de fusion des éléments d'images, de compositing, on commençait avec ce film, qu'on va voir comment ça évolue plus tard. Donc, je le rends hommage parce que c'est un travail de groupe, c'est un travail d'équipe, et vous avez remarqué qu'on a été très peu à travailler sur ce film parce que c'est ça qui s'est imposé aussi à ma façon de travailler, c'est qu'on travaillait vraiment chacun, il y avait une personne par poste, il y avait un animateur, je dis ça, Jean-Michel me regarde avec des yeux, il y avait un animateur, un peintre, une personne au compositing, c'était comme ça, on a fait, mais on a mis un an et demi à le faire. Voilà. Michel, si tu veux bien venir, je voudrais qu'on puisse échanger quelques mots sur, je sais que tu n'as rien à dire à part composer de la musique, mais je suis sûr que tu vas pouvoir dire deux, trois choses. Alors, est-ce que ce micro marche ? Oui, ça marche aussi. Voilà, je te donne le micro. Juste, j'introduis Michel Karski pour dire que Michel était un vieux compagnon de route. Il n'est pas pour rien dans toutes ces histoires parce que sa mère, Karskaya, était un très grand peintre surréaliste, faisant des collages et autres. Et Michel lui-même est un, pour moi, grand musicien qui procède un peu comme sa maman peintre, c'est-à-dire qu'il travaille avec des morceaux d'éléments qu'il enregistre et qu'il monte lui-même après. Il va nous en parler deux minutes. Et on avait, avant Ligne de vie, fait déjà 3 ou 4 films ensemble. J'ai bien connu le soleil. Mission accomplie, pour lequel tu as eu toujours des prix pour la musique, composition originale. On avait déjà un parcours ensemble. Et je sais que Michel considérait, par exemple, pour ce film, par exemple, j'ai un secret à vous livrer. C'est dommage que Dora Benusilio soit pas là. On s'est plusieurs fois insulté avec Dora au téléphone à la fin du montage parce que je ne voulais pas mettre de texte sur ce film. Je ne voulais pas de voix off. Je ne voulais pas de texte. Je voulais que le film n'existe qu'avec la peinture et la musique et en pensant que ça existait comme tel. Elle a fortement insisté, mais elle avait le dernier mot puisqu'elle produisait le film, pour qu'on mette une voix off que j'ai fait avec plaisir, réécrit, tout ça, avec Bernard Ballet, qui a une voix formidable. Et je vous assure qui m'est arrivé une fois au festival de Bursa en Turquie. Il y a une jeune fille qui s'est approchée de moi, qui m'a offert un dessin qu'elle avait fait après le film. Elle m'a dit, la voix est absolument inutile dans ce film, tout est clair. J'ai dit, merde. Non, en même temps, je suis très content qu'il y ait la voix, parce que ça a permis que le film soit vu par des jeunes, par des gens, que ça ne l'a pas enfermé dans... Excuse-moi Michel, je fais des digressions. Dis-moi, comment on a travaillé ? Je sais pas.
Oh, mes souvenirs ne sont pas forcément les tiens.
Justement.
Non, ce que je voudrais dire, c'est que l'effet de ce film, une anecdote, j'ai rencontré... Voilà. Ça, ah oui, il faut parler plus fort. J'ai rencontré quelqu'un que je ne connaissais pas et qui m'a parlé de séances de ses cours, les professeurs... Première, terminale, sur la façon de réaliser des films, de réaliser des films d'animation et de mettre la musique sur les films d'animation. Et elle me parle d'un film qui était très bien et qui lui sert tout le temps d'exemple, etc. Et puis je me rends compte que petit à petit, je le connais, ce film. Et c'était Ligne de vie. Il y a eu, à la fin de cette rencontre, deux personnes ravies. Elle, de rencontrer le compositeur qu'elle ne connaissait absolument pas, et moi, de voir 7 ou 8 ans après la réalisation, que ce film circulait encore, vivait dans les écoles. Voilà. Pour moi, c'est la meilleure récompense qu'on puisse avoir. Maintenant, comment je travaille, ça, on peut peut-être en discuter après.
Il y a d'autres films où on va entendre sa musique, donc on pourra en parler, comment il travaille, mais je tiens à dire quand même qu'il a une façon... qui est assez adéquate à la façon dont moi je travaille au film, lui il travaille à la musique, c'est-à-dire que d'abord il enregistre les musiciens un par un, c'est-à-dire que les musiciens ne se rencontrent pas, c'est quand même extraordinaire, C'est pour le même morceau qu'il a écrit. Il reçoit les musiciens chez lui, un par un. Bon, il leur fait boire un peu de vodka, des trucs comme ça. Ça, c'est un rituel.
Après.
Après, oui, c'est vrai. Avec moi, c'est avant. Avec les musiciens, c'est après. Et alors, il les enregistre un par un. Et après, qu'est-ce que tu fais?
Après, je mixe, je coupe, je compose.
Donc, il fait du montage, du démontage, de la construction.
Sur du son.
Voilà. Sur des couleurs de son, ouais. Voilà. Il fait de la peinture, quoi, mais en musique, quoi.
Je compose. Pour moi, c'est un peu différent de la peinture que je connais bien, puisque ouais. Ma mère était peintre. Mais je compose la musique à partir de sons existants. Et de sons, en général, vocaux ou instrumentaux. Oui.
Oui, voilà. Il y en a un autre. Attendez. Voilà. Faites passer le micro.
Ça devient interactif, ça va être super. Merci. Non, je me posais simplement la question de l'intégration des bruitages par rapport à la musique. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce travail-là ou est-ce que ça s'est fait après? Est-ce que quand vous avez composé la musique, vous saviez qu'il y allait avoir du bruitage? J'imagine que c'est peut-être un film qui s'est fait petit à petit.
Non, il ne savait pas. Comme Raymond Delvac ne savait pas très bien ce que c'est qu'un film dit d'animation, Michel Karski n'en savait pas plus puisqu'il n'avait jamais composé de musique de film. D'ailleurs, je crois
qu'il... films d'animation.
Et de films,
oui. On avait fait des films ensemble.
Oui, je sais, mais je veux dire de films, oui, d'animation. Donc, les bruitages sont venus après. Mais c'est vrai que les bruitages, c'est aussi une partition... qui s'inspire et de la musique et de l'image. Et je pense que les bruitages jouent un rôle très très important, notamment dans ce film. Dans d'autres aussi, dans le prochain qu'on va voir aussi. Mais c'est vrai que le bruitage, c'est une partition musicale aussi, d'une certaine façon, mais qui induisent du sens autre que celui de la musique, qui est plus sensible dans le sens des sentiments peut-être, alors que le bruitage, c'est plus dans le sens de la compréhension de la situation, du terrain. Du lieu, du rapport atmosphérique, quoi. Mais Michel n'en savait pas.
Pourquoi avez-vous posé cette question? Ça m'intéresse parce que nous n'avons pas toujours été d'accord.
Non, parce que Michel considère que de toute façon, il ne faut rien faire d'autre que sa musique. Hein. Une fois qu'il m'a filé la musique, il dit, bon, ça va là. Voilà, tu mets la musique et le film marche.
Je ne veux pas prendre de parti par rapport à l'un ou l'autre, hein, mais ce n'est pas le but.
Prenez.
Non, je me posais la question parce que j'ai trouvé le mixage assez particulier par rapport à d'autres films d'animation, au niveau des bruitages, justement. On sent qu'il y en a, il y en a qui ressortent énormément, il y en a qui sont plus discrets. En règle générale, ils ne sont pas tout à fait réalistes, c'est-à-dire qu'ils restent dans un... Justement, ils collent assez bien avec la musique, avec l'image, qui sont dans des effets un peu stylisés. Et je trouvais ça frappant à l'oreille, et du coup je me posais une question de savoir si c'était quelque chose de volontaire par rapport à la musique, ou si ça avait été fait après, en fonction bien sûr de ce qui avait déjà été fait comme travail. Mais voilà.
Est-ce que tu es satisfait de la réponse?
Oui, c'est toi qui devrais être. Mais enfin, oui, je pense que vous avez raison. Disons, la poésie du film, de l'image, plus de la musique, fait que le bruitage s'impose de lui-même.
Non, par exemple, après, on peut prendre un exemple.
La façon dont ça a été fait s'impose.
Quand le gardien vient et touche avec le bois qu'il a à la main, la feuille, et que là, il y a un bruit précis, très fort, parce qu'on n'aurait pas dû entendre, si on était réaliste, du bruit de la feuille, du dessin que ça fait, je pense que ça travaille dans le sens... du film, dans le sens de la dramaturgie du film.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a aussi d'autres moments où on a un peu l'impression que les effets sonores et la musique se mélangent de façon complètement, justement, sans avoir ces moments qui ressortent, par exemple pour la pluie au début ou la neige. On n'entend pas les pas dans la neige, mais on entend une texture de neige très présente,
ouais.
Qui intrigue un peu l'oreille, justement, par rapport à tout ça. Parce que c'est vrai que, par exemple, on entend les pas du début dans la boue, mais sur le reste du film, on ne les entend pas tellement, ouais. Alors qu'on entend les roues crisser, etc.
Donc non, mais c'est des choix très, très subjectifs ouais. Lors de l'écriture avec un garçon très talentueux qui s'appelle Christophe Bourreau d'ailleurs, que vous devez connaître peut-être, qui est un bruiteur avec qui on s'amuse. On s'amuse dans le sens de la partition, c'est une lecture du film aussi. Mmh. Après on fait des choix au mixage, mais on fait un maximum de choses, après on fait des choix au mixage, ça c'est très subjectif, comme le montage de la musique lui-même d'ailleurs. Merci. Bon, voilà, merci Michel. On va de toute façon te redonner la parole puisqu'il a fait la musique des trois films qu'on va revoir, mais avant de continuer sur les films qui ont suivi, parce que moi je me suis dit que ça allait s'arrêter après Ligne de vie, que c'était une démarche exceptionnelle de faire un film d'animation pour quelqu'un qui avait fait des films documentaires, puis des films de fiction aussi. J'en avais fait déjà plusieurs, des courts et des moyens-métrages. Eh bien non, y a un certain Pierre Azuelos qui est venu me chercher avec Hélène Vessière. Il avait vu ce film-là, je crois, hein, Pierre. Donc on va en parler tout à l'heure de pourquoi et comment. Avant, je voudrais faire une sorte de trouée sur le futur, sur ce qu'on est en train de faire avec Henri Magallon, qui est le producteur délégué, s'il te plaît Henri, tu peux me rejoindre, le producteur délégué de ce film qui s'appellera donc Dernier Round à Istanbul, qui est un long métrage d'animation et qui donc est en train de se développer, enfin un peu plus que ça, puisque il y a une partie de l'équipe que je vais vous présenter aussi qui est là et dont on va voir le travail tout de suite. On est au stade de le scénario est fini avec Michel Lévian qui pourra en parler aussi tout à l'heure. La dernière version du scénario est finie, donc on a pu s'attaquer à une forme de découpage, à du storyboard, à l'animatique, mais déjà en amont avec Thomas Azuelos, avec qui j'avais fait précédemment Chienne d'Histoire qu'on verra tout à l'heure, on avait déjà beaucoup travaillé et cherché le sens de comment représenter les personnages de ce film. Donc on va voir tout ça et on va pouvoir en parler après avec tout le monde. Je vois ici au fond de la salle Benjamin Massoubre, Yvan Gomez, Atam Rachaud qui compose l'équipe d'aujourd'hui avec lesquels on s'attaque à l'animatique du film, non seulement à l'animatique que vous allez voir déjà, mais au pilote. C'est-à-dire on va faire 4 minutes du film, là, dans les semaines qui viennent, qui vont être décisives et convaincantes pour les producteurs à venir et les coproducteurs qui sont déjà convaincus, comme Jean-Michel Spinner, ici présent. Enfin, voilà, on va pouvoir en parler avec toute l'équipe. Mais je donne la parole à Henri pour qu'il en fasse comme il veut, rapidement, pas rapidement, comme tu veux. L'historique un peu, parce que ça date, ce projet.
À toi, Henri. Oui, bonsoir, vous m'entendez ? Oui, ça fait quelques années qu'on se croise avec Serge, ça fait un moment, ça fait peut-être 10 ans, c'est Michel qui nous a présenté d'ailleurs. Et ça fait quelques années qu'on est sur ce film et qu'il a vécu pas mal de réflexions, d'hypothèses, de tests, d'expérimentations en tout genre, pour finalement arriver à une conclusion après, ça fait 5 ans, je crois, qu'on est dessus. Toi, peut-être un peu plus même, d'ailleurs, oui. Tu es venu me voir avec. Et à une conclusion qu'effectivement, ça nous correspond bien qu'on le fasse en animation, ce film. Mais je ne sais pas si tu veux qu'on commence par ça. On peut peut-être montrer les premiers tests qu'on avait faits.
On va regarder au fur et à mesure l'évolution de ce projet, parce que ce projet a vécu des péripéties incroyables.
Je vais quand même un peu vous raconter de quoi ça parle.
Alors attendez avant de projeter. Voilà. Il va pitcher.
Que vous puissiez situer un peu ce qu'on va vous montrer dans quelque chose. En fait, c'est un film d'espionnage, c'est un thriller un peu, qui se passe en 1946, juste après la guerre, à un moment donné où les gens ont peut-être envie plutôt de faire la fête que d'essayer de résoudre les problèmes d'avant. Et c'est la traque d'un criminel de guerre nazi dans les milieux de la boxe entre Addis Abeba, Istanbul et Djibouti, en passant par Djibouti. Entre les Turcs et les Arméniens, un match de boxe assez symbolique. Qui déclenche un peu toute une traque. Donc voilà, c'est un film que Michel et Serge viennent de finir d'écrire et qui est passé par pas mal d'évolutions, dont certains tests qu'on va vous montrer là, qui étaient dans une autre technique que l'animation, mais déjà très graphique et très travaillé au niveau du visuel.
On va regarder donc le premier volet de ces tests, de film test, parce que je voulais faire le film en prise de vue réelle, en fait. Mais avec des images d'archives, mettre en scène des comédiens dans des images d'archives. Et voilà ce que ça a donné. Voilà, on peut se dire que c'est dommage de ne pas faire le film comme ça. Hein. Eh bien, je n'ai aucun regret parce que ce qu'on va voir maintenant, c'est autre chose et on va ailleurs. Mais voilà, il y a dans la vie des démarches qui s'arrêtent un moment parce que ça, c'était avant The Artist C'était en noir et blanc, c'était en 4 tiers. Mais The Artist est passé par là depuis. Qui a fait un... Aucune comparaison. Hein. C'était juste pour dire que les producteurs et les distributeurs n'y vont pas comme ça vers des projets qui représentent une stylisation un peu trop forte, un peu trop décalée. Peut-être une histoire aussi qui n'avait pas l'air de toucher peut-être le plus grand nombre. Je ne sais pas. En tout cas, pour continuer notre duo, Henri n'a pas lâché. Non seulement il n'a pas lâché, mais il a continué à me tanner, moi aussi. Moi, j'ai fait une parenthèse, parce qu'entre-temps, on a fait Chienne d'Histoire, on va en parler tout à l'heure. Et entre-temps, j'ai fait un autre film, que j'espère vous verrez bientôt, qui s'appelle Paradjanov, en Ukraine, en Géorgie et tout ça. Mais on a continué à travailler. Et Henri m'a convaincu qu'on pouvait faire ce film en animation. Et il m'a convaincu surtout de retravailler le scénario avec Michel Lévian, qu'on se connaît depuis longtemps. Et ben, on l'a fait.
Donc... On est en train de le faire, mais on a bien commencé ce chemin-là. Donc, oui, si vous voulez, comme il n'y a pas de son du tout sur ce qu'on va vous montrer,
c'est... Tu peux nous rejoindre, s'il te plaît. J'appelle Thomas Azuelos, qui est le peintre avec qui on va travailler sur le film. On a déjà l'expérience. Tiens, tu as un micro, tiens. Avec qui on a déjà fait... Chien d'Histoire, qu'on verra juste après ça. Enfin, pas juste après d'ailleurs, mais un peu après. Et Thomas, si tu veux bien, comme ça, à chaud, on commente ensemble ce qu'on va voir, c'est-à-dire des tentatives de storyboard, mais déjà avec des personnages inscrits. Enfin voilà, je n'en dis pas plus. On va y aller parce que c'est muet, cette deuxième partie. Après, on regardera l'animatique.
Bonsoir. Donc je crois qu'on va commencer par des recherches de personnages.
Oui,
donc c'est, ça.
No, c'est un mélange entre story et recherche de personnages. Mais déjà avec ta patte et avec tes propositions sur les personnages à partir de lecture.
Donc toujours, là on est toujours sur le dernier round. Hein, on a toute une galerie de personnages qui se croisent autour de cet enjeu de boxe qui a l'air d'être... simplement accessoire dans le film mais qui en fait est assez symbolique, emblématique de tout l'affrontement qui se joue puisqu'il y a une communauté arménienne, il y a un personnage qui est un descendant de Enver Pacha donc qui représente le génocideur pour ces Arméniens-là qui veulent sa peau, il y a les deux officiers anglais qui sont à la recherche d'un nazi en fuite
qui il y a un Irlandais
qui ont mis la main sur un pauvre Irlandais qui font chanter pour une histoire qui est liée à l'Irlande et à l'Angleterre et voilà donc la traque de ce nazi va les conduire jusqu'à Istanbul. Là on est encore autour du match de boxe et en fait c'est une espèce de présentation de tous les personnages qui sont en jeu. Il y avait le chef de la police là, donc Suleyman,
le boxeur turc,
Enver Pacha, le boxeur turc, et Armen, notre héros, qui est là. Donc ça c'est des recherches de boxe aussi, hein, purement et simplement parce que il fallait que je me fasse la main aussi sur des histoires un peu de boxe, quoi. Rosa, la sœur de Armen, Marteau qui est là, qui est un ami à eux.
Rosa, c'est le personnage principal féminin par qui passe la fable, en fait, de cette histoire. Jemal, c'est le chef de la police parce que le film commence à Addis Abeba. Hugo, c'est un Italien perdu à Addis Abeba qui organise ses matchs de boxe clandestins.
Pour ce que vous verrez tout à l'heure, ce que vous voyez un petit peu là dans les recherches, on a décidé de ne pas faire une bande-annonce pour pouvoir présenter le film, mais plutôt de prendre deux scènes extraites du scénario qui symbolisent bien et ce que nous, on a comme défi technique à relever pour pouvoir faire un long-métrage complet avec tout ça. Et
ça,
surtout deux ambiances.
Les recherches de Thomas sur, sur Istanbul et ce que Armen et Rosa sont devenus à ce moment-là, parce que en fait tous les chemins mènent à Istanbul ici où se dénouera le drame et notamment l'histoire de Armen et de Rosa qui sont des orphelins du génocide. Et là c'est l'Irlandais avec Suleyman parce qu'il manigance autre chose, et là c'est des turns qui ont été faits donc par Thomas qui a dessiné, par Atam qui les a travaillé à l'encre. Ça c'est un line-up de certains nombres de personnages. Lui c'est Marteau qui est le copain d'Armen. Lui c'est Hugo, Hugo, l'ex-boxeur italien qui organise des matchs. Armen qui est à Addis Abeba et là à Istanbul plus tard. Jemal qui est le chef de la police donc d'Addis Abeba. Suleyman le boxeur turc. Et là on est dans des images de recherche déjà un peu plus composées par Thomas qui les a peints et dessinés par Fred Tribolet, qui n'est pas là et qui, avec qui je fais les compositions d'images. Ce que vous pouvez remarquer, c'est l'utilisation des photographies, en fait, qui sont assez présentes dans les profondeurs de champ entre peinture et photographie. Et là, c'est un plan du film qu'on a fait avec 2 minutes. Jean-Michel est là avec Quentin Francotte. C'est un plan du film, 15 secondes, l'anglais qui arrive au match de boxe à Addis Abeba. Voilà. Par exemple, vous remarquez qu'on a choisi le côté monochrome des costumes quand on est en plan large. Et en revanche, quand on sera en gros plan, on aura quand même la sensation des peaux et des costumes. Ça, c'est la cale du bateau où Armen et Marteau, son copain, sont engagés pour aller à Istanbul et qui boxent pour gagner leur vie. Justement, le port de Djibouti, d'où ils vont s'embarquer. Là, vous pouvez remarquer, par exemple, tout le montage entre photographie du bateau, la mer, le ciel et la peinture, les caisses. C'est tout ce mélange. Là, les murs qui sont tout en photographie et la peinture de Thomas qui est au premier plan avec les derviches et Armen et Rosa. Là, c'est frères et sœurs qui se racontent une histoire importante qu'on verra d'ailleurs dans l'animatique tout à l'heure. Voilà un petit peu l'esthétique, si vous voulez, les premières approches esthétiques du film. On va aller vers des couleurs de ce genre, vers un rapport des matériaux entre peinture et photographie. D'où, Arlette, je n'oublie pas, excuse-moi, je n'ai pas encore prononcé le mot, mais on est là aussi pour parler de documentaire et d'animation. Et je pense que c'est un peu ça qu'on est en train de voir au fur et à mesure. C'est que dans ce travail, il y a le réel et l'imaginaire qui se côtoient tout le temps, c'est-à-dire la peinture étant l'imaginaire, la peinture étant la fiction qu'on va insuffler, mais les images d'archives photographiques viennent étayer tout le temps le décor, le parcours des personnages. Donc vraiment, le travail documentaire est très omniprésent. On l'a vu un peu dans Ligne de vie aussi, mais on va le voir tout à l'heure dans les films à venir de façon encore plus spectaculaire. On va s'asseoir, on va regarder l'animatique avec le concours de nos camarades.
Aussi, une chose que je voulais dire vite fait, c'est que ce n'est pas un film pour les enfants, hein. C'est un film pour les grands.
Les grands enfants.
Les enfants, il y en a certains qui savent.
Les enfants qui ont grandi.
Mais c'est plutôt dans la veine de genre de spectateur de Valse avec Bachir, de ce genre de cinéma d'animation pour adultes.
Oui, on parlera de l'animatique après, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un animatique. C'est à partir de storyboard. Voilà, le travail ne fait que commencer. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude, dont moi d'ailleurs, de savoir ce que c'est qu'un animatique, c'est comme si on avait fait marche arrière pour faire marche avant. C'est-à-dire qu'on a vu des images qui sont incarnées par la peinture, par la composition. Et puis là, c'est comme si on faisait marche arrière, mais pour aller de l'avant, parce que justement maintenant, le travail de Thomas est... la composition d'images, tout ça va commencer à partir de ces données-là que mes chers amis producteurs, Henri et Jean-Michel, ici présents, vont pouvoir quantifier. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on a affaire à de l'industrie, qu'un court-métrage, c'est un court-métrage, mais un long-métrage, bah, ça va durer presque un an de travail, il faut le quantifier, il faut que les gens... Enfin, bref, je vous passe les détails qui sont peut-être ennuyeux pour un public qui n'a pas forcément envie d'entendre parler de ce genre de choses, mais de voir des films. Mais je voudrais quand même qu'on dise quelques mots sur, à partir de l'animatique fait avec Yvan, Benjamin, Atam qui a travaillé sur les turns en parallèle, en fait, toute l'équipe qui est en mouvement en ce moment pour mettre en place ce que ces deux séquences vont raconter. On a décidé, en fait, comme disait Henri, de ne pas faire un teaser, de ne pas faire une sorte de clip qui résumerait le film, mais plutôt de dire, voilà, on fait 2 séquences du film qui disent des choses un peu énigmatiques, qu'on ne comprend pas tout, mais c'est des pistes, mais qui donnent surtout le ton, le mystère un peu, à la fois esthétique et même verbal, enfin historique du film, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Thomas? Dis-nous, pourquoi?
Moi, je vais repartir à partir de l'animatique, donc, qui maintenant nous donne exactement de quoi vont être faits les plans. Je vais repartir des images arrêtées que Ivan, je crois qu'il est par là, que je connais
Ivan
pas
est là-bas, oui, au fond.
Qui, que
Yvan dernier rang, là, c'est les, fait les diplômés du dernier rang.
Pour cette animatique, je vais repartir de ces images arrêtées que je vais redessiner avec, avec les personnages que vous avez vus tout à l'heure, là, avec les personnages, avec leurs proportions, leurs costumes, etc., que je vais remettre dans les situations donc de ce storyboard-là. Et ensuite, ces images-là vont servir à Tam et autres animateurs.
À Angoulême,
qui eux vont se mettre à les animer. Donc moi, en fait, je vais faire une série d'images fixes. Donc on a calculé qu'il y avait à peu près 50 plans, 50 layouts à faire, que ensuite Atam va entièrement redessiner, puisqu'ils vont faire de l'animation vraiment dessin par dessin, à l'ancienne, si on peut dire ça comme ça. Et donc en fait, à la fin, ce sera vraiment leurs traits qui vont faire bouger les personnages. Mon trait n'existera pas.
À partir des modèles.
Voilà, moi je recrée les modèles et puis après c'est eux qui vont faire bouger, quoi. Et après, en parallèle de leur animation, moi je ferai les décors avec Fred Tribolet, donc qui n'est pas là. Moi je vais faire des peintures, lui va faire des assemblages photos et après on va mixer ça ensemble.
Il faut dire qu'on travaille aussi avec l'aimable participation de Pathé et Gaumont, qui nous donne accès à leurs archives. Ça, c'est très impressionnant, justement, par rapport au documentaire. C'est que, par exemple, quand j'ai envie d'avoir une rue ou le bazar d'Addis Abeba, je vais chez Gaumont, Pathé, Saint-Ouen, je visionne, on nous sort, on visionne un tas d'images, on se dit, tiens, celle-là pourrait être intéressante, celle-là, et puis on scanne tout de suite l'image, on récupère l'image, on l'amène, c'est repeint par-dessus. Enfin, c'est,
des images de l'époque, en fait, des années 40. Oui. À Istanbul,
c'est une reconstitution historique à partir d'images documentaires. Quoi, c'est une sorte de dialogue entre des documents qui viennent étayer une ambiance, une géographie, une histoire en fait, et la fiction de la peinture qui s'inscrit dedans. Et tout ça crée ce dont on ne parle pas, qui est le rôle quand même du réalisateur qui fait la mise en scène. Parce qu'en fait, moi, je ne procède pas tellement comme un réalisateur d'animation classique, puisque je ne connais même pas à peu près, enfin j'exagère un peu, de comment travaillent les réalisateurs d'animation classique, qui évidemment sont très à l'affût de chaque dessin, de chaque chose, parce qu'eux-mêmes dessinent souvent, ce qui n'est pas mon cas. Donc moi je procède par la mise en scène. Alors d'abord je mets en scène les gens avec qui je travaille. Je commence comme ça. C'est-à-dire, je mets en scène Thomas, je vais mettre en scène... Attends. Non, ce que je veux dire, c'est que je leur colle au cul un peu. C'est-à-dire que je suis un peu collé à eux, je travaille au corps, tout ça, je veux comprendre s'ils ont bien compris ce que je veux obtenir. Donc c'est un peu du corps à corps. Après, j'arrive à me glisser entre l'animateur et la personne avec qui on fait la composition d'image. Je passe de l'un à l'autre, je vais dire à Atam, non, là le mouvement est un peu trop lent, on va accélérer un peu, ou on va le mettre un peu plus bord cadre, tout ça. À Fred Tribolet ou à quelqu'un d'autre avec qui je travaillerai à la composition, je dis non, cette image d'archive n'est pas le bon, on va prendre l'autre. Là, ça serait bien qu'il y ait de la fumée, là, on va mettre de la pluie. Enfin bon, voilà, c'est toute la mise en scène, ce que j'appelle la mise en scène de l'image, parce que je n'utilise pas les mots des réalisateurs d'animation pour les déterminer, la mise en scène de l'image qui va venir raconter plan par plan l'histoire qu'on est en train de vouloir raconter. Et tout ça part évidemment d'un scénario qu'on a écrit avec Michel, à qui je vais donner la parole. Où est-ce qu'il y a un micro qui se balade? Hein? Il y en a un qui se balade, et voilà, tiens. Ah bah voilà. Voilà. Michel Lévian, je voudrais que Michel dise un mot, parce que Michel est arrivé dans le projet après des versions d'écriture qui avaient été faites justement pour être en prise de vue réelle et qui ne se sont pas faites. Et puis d'un seul coup, puisqu'on allait envisager le film dit en animation, il a fallu qu'on écrive le scénario à partir de cette idée qu'on allait faire un film d'animation. Alors j'aimerais bien avoir son impression sur... qu'est-ce que ça voulait dire d'écrire un scénario à partir d'une histoire qui existait déjà, mais qui allait devenir, dans sa tête à lui et dans la mienne, dans notre discussion, un film d'animation?
Est-ce que... Oui, le micro marche? C'était une expérience un petit peu curieuse, parce que j'étais, moi, en train de faire un autre film comme réalisateur. J'étais au montage et ma monteuse était en vacances pendant 10 jours à Noël. Et Henri m'a fait lire le scénario de Serge, et je trouvais qu'il y avait des gros problèmes mécaniques En même temps, j'avais vu Ligne de vie, qui est un des plus beaux films que j'ai jamais vu. Et donc, je voulais absolument travailler avec Serge, mais le scénario, franchement, je trouvais qu'il ne fonctionnait pas du tout. Il y avait tout un tas de choses que je ne comprenais pas. Serge n'étant pas du tout chaud pour qu'on retravaille le scénario, Henri m'a fait savoir qu'il ne voulait pas de moi. Et comme j'avais 10 jours de vacances, je me suis dit, de toute façon, je suis viré. Et j'ai écrit ce que je voulais, en complète liberté et parfaitement certain que Serge allait me jeter le scénario à la gueule parce que ça changeait trop quelque chose sur lequel il travaillait depuis des années. Et puis quand il a lu le scénario, à ma grande stupeur, il a dit « ouais, c'est pas mal ». Et après, on a retravaillé. Et je dois dire, j'ai des expériences assez douloureuses comme scénariste avec les réalisateurs avec qui je travaille, qui souvent ne comprennent pas les choses qui sont sous-entendues et en voulant améliorer une chose, abîment mon rêve. Et là, en l'occurrence, je suis arrivé à la première réunion en me disant « oulalalala, de toute façon, je m'en fous, j'ai passé 10 jours ». Et plus ça allait, plus j'attendais avec impatience les réunions en me disant « ah là là, ça devient de mieux en mieux », jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui soit le rêve de Serge et vraiment le mien. Voilà.
Michel a une façon à lui de raconter des histoires. C'est un conteur d'histoires, mais il a raison. Il fait des raccourcis qui sont assez justes, c'est des sensations en tout cas. Mais on a eu quelques prises de bec avec Michel, et à juste titre, parce qu'il a son caractère et moi le mien, avec un arbitre.
Moi je suis là pour arbitrer.
Voilà, avec un arbitre qui est le producteur, notre producteur chéri, puisqu'il était le producteur. Parce qu'Henri est au centre, il ne parle pas beaucoup, c'est intimide, mais il est au centre de tout ça. Il a produit le film de Michel, il est en train de produire celui-là. Il est en train de coproduire un film avec Ron Dienz d'animation. Et je ne dis pas qu'il a été césarisé avec Ernest et Célestine et qu'il va être peut-être oscarisé avec Ernest et Célestine qui part aux États-Unis.
Oui, donc j'espère voilà, bien, mais je ne suis pas tout seul. Ernest et Célestine, on est plein à l'avoir fait. Mais moi, c'était un peu ça que je voulais dire. En fait, plusieurs trucs rapidement. La première, c'est qu'effectivement, ce que j'adore en animation, c'est un énorme boulot d'équipe et que tout est dans l'anticipation. Alors, on peut aussi faire des films avec des vrais comédiens en anticipant tout. D'ailleurs, c'est plutôt ce conseillé, mais ce n'est pas toujours ce qu'on fait. Et là, on n'a pas le choix. En dessin animé, ce que vous avez vu là, c'est effectivement une sorte de maquette de ce qu'il va falloir maintenant qu'on fasse précisément. Et donc, je réunis des tas de gens autour de Serge, beaucoup que Serge réunit lui-même d'ailleurs, et notamment Jean-Michel, qui est là, le studio 2 minutes, qui a une grosse expérience dans le long-métrage, dans la série d'animation, etc. Et là, notre
très
défi
grosse
à tous,
expérience.
Notre défi à tous, c'est le mien un peu en particulier, c'est de faire passer tous ces gens qui font plein de courts-métrages, et Pierre pourra peut-être dire comment ça se passe pour produire des courts-métrages. Moi, j'en produis pas parce que c'est quasiment la même galère que de faire des longs, donc on va plutôt essayer de faire des longs-métrages. Et du coup, c'est de les faire passer dans ces trucs qui tiennent 3, 4, 5, 6 mois où on survit tous, je sais pas comment, pour faire des œuvres magnifiques comme on a vu, à faire les mêmes œuvres magnifiques, mais il faut que ça tienne un an et qu'ils meurent pas dans l'intervalle ou qu'ils nous pètent pas les plombs au milieu. Donc c'est un vrai boulot, et Jean-Michel d'ailleurs m'aide beaucoup à organiser tout ça pour qu'on tienne les plannings, etc. Et d'ailleurs, Jean-Michel est génial parce qu'il nous a même dit, il est un de ceux qui m'a dit que là, on était beaucoup trop long ce soir, que Serge était ultra bavard et que jamais à 10h, on aurait fini. Et là, Serge, il te reste 35 minutes, c'est aussi ça mon rôle de producteur, 35 fait. Minutes pour passer 4 films et faire ce qu'il
non,
reste.
Non, il n'y a pas de 4 films. Non, mais on enlève un film qui est Madagascar, puisque Ron Dienz n'est pas là.
Ah oui, Ron est malade ce soir et il s'excuse auprès de Serge et auprès de vous tous.
Il faut qu'on finisse à 10h. Pile,
oui. 10h15, c'est ça ?
Non, 10h10. Ok.
Bon. Faites gaffe. Si vous commencez à faire ça, moi après, je vais avoir du mal à produire son film.
Bon, alors
les délais, on les tient, on fait tout.
On y va, on y va, on y va. Bon, alors on projette, s'il vous plaît, Monsieur le projectionniste, qui est toujours sur le coup. On va projeter Un beau matin, et après, on va parler avec Pierre Azuelos, qui a produit le film. Et
j'ai besoin de plein de conseils pour produire le long métrage de Monsieur. Vous avez produit son film. J'ai besoin de vous parler.
Pierre, s'il te plaît. Voilà Pierre Azuelos qui a bien voulu attendre jusqu'à ce que je lui donne la parole, qui a produit donc Un beau matin.
Le film est daté de 2005. Je crois qu'on a commencé à travailler dessus en 2003. Et il faut vous souvenir qu'en 2002, il s'est passé quelque chose de particulier en France. C'est les fameuses élections présidentielles où, au deuxième tour, se sont trouvés...
21 avril.
Voilà. Se sont trouvés face à face Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Vous vous souvenez que ça avait fait un certain remue-ménage dans les esprits. Les artistes, les intellectuels, etc. s'étaient mobilisés. Et ce remue-ménage mental s'est poursuivi pendant un certain temps au-delà des élections. Il se trouve que les éditions Chêne, C-H-E-Y-N-E, qui sont une petite maison d'édition qui se trouve en Auvergne, je crois, hein, près, en Auvergne, et qui font d'habitude de beaucoup de poésie, des choses un petit peu de la micro-édition, avaient dans leur catalogue une nouvelle qui s'appelait « Matin brun ». Une nouvelle de Frank Pavlov qui évoquait déjà, qui racontait une histoire donc de ce qu'on appelle une dystopie, c'est-à-dire le contraire d'une utopie, une histoire épouvantable de totalitarisme dans lequel tous les chats et tous les chiens qui ne sont pas bruns sont éliminés, puis après on élimine les gens qui avaient des chats et des chiens qui étaient bruns, puis après on élimine les gens qui avaient eu des chats et des chiens qui étaient bruns, etc. Bon. Et donc en 2002, dès après les élections, les éditions Chêne ont édité de nouveau le petit bouquin. Il s'est vendu vraiment...
C'était 1 euro. Hein.
Plus que des petits pains.
Hein. 1 euro, non ?
Il se vendait 1 euro, oui, et il était déposé quasiment sur les banques de toutes les librairies, à la FNAC, à Soramps, à Montpellier, etc. Et il s'est vendu vraiment de manière massive, puisque celui que j'ai ici, il est indiqué qu'il avait été tiré à 1 025 000, enfin, qu'il a été, oui, édité à 1 025 000 exemplaires.
Il y a eu 1 300 000.
Oui, je crois qu'à la fin, ça a dû faire 1 300 000. Les profs de collège en avaient acheté des paquets pour tous leurs élèves, etc. Ayant bien sûr, comme tout le monde, lu ce livre, avec l'équipe de La Fabrique, je vous rappelle que La Fabrique, c'est un studio d'animation tout à fait décentralisé qui se trouve à peu près au bout du monde et encore un petit peu plus loin, à Saint-Laurent-le-Minier, au nord de Montpellier.
Très bel endroit. Hein.
Un endroit absolument magnifique, c'est vrai. Mais oui, bon, voilà. Et ayant lu ce livre, on en parle avec l'équipe de La Fabrique, on dit que ça serait pas mal du tout. On prend contact avec Frank Pavlov, je vais le voir à Grenoble, et il me dit « Oh, j'aime pas du tout qu'on fasse des films à partir de ce que j'ai écrit », parce qu'il a écrit beaucoup d'autres textes, en particulier des livres pour adolescents. Mais puisque c'est La Fabrique, et puisque j'aime bien le travail de Jean-François Laghioni, le fondateur de La Fabrique, je veux bien qu'on essaye. Bon, fort de l'accord de Frank Pavlov, on demande à une scénariste du studio de nous faire un premier scénario. Avec ce scénario et l'accord de Pavlov, je vais à Arte voir Hélène Vessière, parce qu'il faut quand même vous dire, sans rentrer dans les détails, que pour faire un film d'animation, il faut d'abord le vendre. C'est pas comme quand on fait des croissants. Hein. Le boulanger fait les croissants, puis il les vend après. Un film d'animation, il faut d'abord le vendre, soit en trouvant des coproducteurs, soit en trouvant des préventes. Hein. Je vais voir donc Hélène Vessière qui me dira « Ah, c'est intéressant, ça m'intéresse beaucoup, etc. » Arte pourrait le, et il faut encore, tu l'as fait tout à l'heure, rendre hommage au travail qu'a fait Arte et à Hélène Vessière sur toute cette période. Et Arte accepte d'être coproducteur et de le préacheter aussi comme diffuseur. On discute, Hélène et moi, de réalisateur. Elle avance le nom de Serge Avedikian. Moi, j'avais vu Ligne de vie, oh, je saute en l'air, je suis très content. Je prends rendez-vous avec Serge. On se rencontre dans une brasserie à Pigalle.
Quelle mémoire !
Ah oui, je me souviens. Et je lui amène le livre, il le connaissait, et je lui amène le scénario. Bon, je le revois quelques jours après, je vois la tête qu'il fait, j'ai compris que ça ne va pas le faire. Et je lui dis, bon, ben, écoute, on démarre comme ça, puis on verra. Hein. Et puis au fur et à mesure, bon, Serge a remanié, c'est pour ça qu'il y a deux, il y a marqué adaptation.
Scénario, Annick Leray et moi. Ouais.
Voilà, adaptation et scénario, Annick Leray et Serge Avedikian. Serge Avedikian transforme Matin brun en ce que vous avez vu. C'est-à-dire que d'abord, il supprime le brun, et là, je suis tout à fait d'accord avec lui, il trouvait que ça faisait trop daté, trop facilement.
Que la connotation par rapport au fascisme était trop directe.
Il invente le net. Alors moi, ça m'a aussi étonné au début. Mais finalement, au fur et à mesure que ça avançait...
On s'y fait.
Et puis même la référence à Internet ne m'a pas déplu, moi. Enfin, je ne sais pas si elle était moitié volontaire, moitié pas... Puis Net, ça faisait bien propre, hein, bien propre sur soi. Enfin, c'était finalement... Et il invente surtout avec Fred l'espèce de...
La matière
bouillie, là. Hein,
qui grignote, oui.
Oui, à la fois, c'est ça. Qui a l'air à la fois... On dirait une espèce de cancer qui se développe, là. C'était beaucoup plus fort que la simple couleur brune. Voilà. Et on a travaillé ensemble. Alors, Franck a été un peu étonné au début. Franck Pavlov a été un peu étonné au début. Ça nous a coûté 2-3 réunions où on s'est retrouvés à Paris. Et puis, il a été finalement assez convaincu. Et il est très, très content du résultat final. Pardon, j'ai oublié de vous dire que c'est Serge qui a choisi donc, le graphisme. La graphiste, c'est Solveig von Kleist, dont j'avais vu des courts-métrages auparavant, et donc j'étais bien d'accord avec ce choix, et voilà.
Et on y était allé.
Ah oui, faire le film, oui, bien sûr.
Et c'est Michel Karski qui a fait la musique.
Voilà.
Encore une fois.
Et je profite pour dire ce que Michel, qui est trop modeste, n'a pas dit tout à l'heure, c'est à quel point la musique en cinéma d'animation, et en particulier dans ces films, contribue à créer l'émotion et à créer l'expressivité du film.
Là, hein, c'est une partie de la dramaturgie du film, c'est
bien sûr, bien
c'est
sûr.
Clair. Merci Pierre.
Quoi d'autre? Oui.
Ben merci. Je pense que.
Alors le film a été beaucoup vu, hein, oui, moins oui, que Ligne de vie, mais presque autant.
Oh, si, différemment. Oui. Oui, oui. Moi, je sais ce que j'ai raté dans ce film, parce que il faut aussi.
Moi aussi, mais je le dirai pas.
Moi, j'ai raté un truc très important dans ce film, et ça a été une bonne leçon pour moi. Tout à l'heure, j'ai parlé de la voix off de Ligne de vie, pour lequel j'avais été hésitant, tout ça. Là, je pense que je n'ai pas mesuré le rôle que jouent des voix humaines sur de la peinture et sur ma façon de travailler avec la musique, justement. Et que les voix sont décollées pour moi du film. Ils ne sont pas dans le film. Je n'ai pas réussi ça et je pense qu'on n'a pas été assez attentif avec les mixeurs à la texture des voix. Parce que je trouve que la texture des voix dans les films d'animation, c'est hyper important qu'elle soit fusionnelle, comme est la musique d'ailleurs, mais fusionnelle avec l'image, trouver le ton qu'il faut, l'intériorité qu'il faut, cette capacité. Je trouve que là, c'est pas les comédiens qui sont du tout en jeu et tout ça, c'est moi qui n'a pas vu, qui n'a pas entendu en tout cas, suffisamment, je dirais.
Je pense qu'avec un graphisme comme celui de Ligne de vie, comme celui-ci, et aussi comme Chaîne d'histoire, des voix tout à fait réalistes, c'est un petit peu difficile. Et parfois,
donc, je vais passer du père au fils, puisque Thomas est le fils de Pierre.
Mais il ne l'a pas fait exprès.
Oui, non. Et du Saint-Esprit, et pour vous présenter le dernier film qu'on va regarder, parce que le temps file à toute allure, qui n'est pas une adaptation cette fois. Parce que il faut dire qu'il y a un DVD qui est sorti de Ligne de vie et d'Un beau matin, avec les deux nouvelles dedans, parce que c'est... Avec le livre, oui, qui sont des nouvelles. Et c'est un bon exemple de ce que la littérature peut devenir quand ça devient un film, notamment d'animation. Bon, Chien d'histoire, c'est une autre histoire. C'est l'histoire justement documentaire. Justement, c'est une lecture d'un livre qui s'appelle Nuit turque de Philippe Videlier, et aussi des récits de mon grand-père et d'autres Arméniens anciens qui avaient vécu à Istanbul dans les années 1910, avant ce qui leur est arrivé, sur l'histoire des chiens des rues, qui est une histoire absolument incroyable. Le film le simplifie un peu, mais l'histoire est très incroyable. Si ça vous intéresse, vous pouvez d'ailleurs... là, je fais une petite pub avec les gens qui ne sont pas là, parce que j'ai fait un film documentaire juste après, produit par Henri, justement, et Ron aussi, qui n'est pas là, qui s'appelle « Histoire de chiens », qui était une réponse à Chienne d'histoire, parce que je voulais 100 ans après vérifier ce que ces chiens des rues de Constantinople, donc d'Istanbul aujourd'hui, sont devenus. Et ces chiens existent toujours, parce que c'est une tradition, c'est lié à la religion. Ce n'était pas du tout parce qu'on les délaissait simplement, c'est parce que ces chiens qui sont des animaux impropres pour la religion musulmane de l'époque sont laissés libres dans la rue, ils ne peuvent pas franchir le seuil, donc ils prolifèrent entre eux.
Donc régulièrement, il faut diminuer leur nombre parce que justement, on ne contrôle pas leur naissance. Donc c'est une sorte de chose qui se mordait la queue, si je puis dire, sans jeu de mots par rapport aux chiens, par rapport à l'histoire. C'est-à-dire que périodiquement, à Istanbul et ailleurs, et on le sait pour Bucarest, on le sait pour Sofia, on le sait pour la banlieue de Moscou, on le sait partout où la pauvreté a frappé encore récemment, où les chiens prolifèrent librement et ils deviennent trop importants, ils deviennent dangereux, on les tue, on les mate, on les anéantit. Mais pour revenir à l'histoire de 1910 à Constantinople, c'était le prélude à quelque chose d'autre. C'était le prélude à une politique jeune turque qui allait être appliquée aux hommes aussi, plus tard. Voilà, donc je trouvais que cette histoire que Videlier avait rapportée dans Nuit turque, où il fait le portrait des trois pachas, qu'on verra dans le film que Thomas a dessiné comme des marionnettes, à juste titre, Enver, Talat et Djemal, sont des gens qui ont appliqué le positivisme occidental à l'islam de l'époque, l'hygiénisme de l'époque. Enfin bon, voilà, je ne vais pas vous prendre la tête trop avec ça. Je pense qu'on va regarder le film. Après, on en parlera un tout petit peu avec Thomas. Et on essaiera de clore cette soirée qui est bien remplie, je crois. Et tant pis pour Madagascar, que je vous conseille de voir, qui a été beaucoup vu, qui est allé jusqu'au Oscar, qui a été produit par Ron Dienz, Sacrobleu Productions, qui malheureusement n'est pas là et qui n'a pas l'air d'aller très bien. Hein. Bon, on verra ça, je l'appellerai en sortant d'ici. Donc on va regarder Chienne d'Histoire et après on essaiera de conclure ensemble et peut-être aller boire un petit coup aussi pour ceux qui veulent rester. Bon, à tout de suite.
Le film que vous allez voir est né sous une bonne étoile.
Merci. Quelle heure est-il, Arlette? 10h05. Alors, voilà. Donc, le thème de ce soir, c'était documentaire, mais pas trop. Et moi, j'ai écrit un texte dans ce qui a été édité, qui s'appelle Une autre image. Et j'ai l'impression que peut-être que ce travail qu'on a revisiter comme ça ensemble parle finalement de ça, c'est-à-dire que presque tous les sujets partent de rapports au documentaire, que ça soit Ligne de vie par rapport au camp, que ça soit Un beau matin qui est une anticipation mais qui part d'un fait réel, de la montée du totalitarisme. Chienne d'Histoire est un fait réel, donc ce rapport au documentaire est magnifié par les talents de peintres qu'ont les amis peintres, dont Thomas qui est ici présent, les deux autres ne sont pas là, les amis compositeurs, Michel Karski qui a parcouru les trois films. C'est la conjugaison de ces talents et l'envie de les confronter, de les mettre ensemble, de les assembler, de les démonter, de les remonter, de les réinventer, font que ça a donné ce résultat-là. Comme je disais au tout début de cette soirée, moi je suis un cas, un peu une pièce rapportée par rapport à ce qu'est le cinéma d'animation. Mais là, avec Henri, avec Jean-Michel, avec tous les autres que j'ai recités tout à l'heure, on va se coltiner un long métrage qui va s'appeler Dernier Round à Istanbul, parce qu'en fait, on peut aussi considérer que ces trois films, qui sont des films à part entière, sont aussi des esquisses pour arriver à un film encore plus élaboré, qui sera un long métrage supportable par le plus grand nombre, et surtout le courage qu'ont les producteurs, dont a parlé Pierre tout à l'heure, de la façon de produire, ce que c'est que de produire un film d'animation aujourd'hui, même si, comme a dit Henri tout à l'heure, je trouve que le cinéma d'animation dite pour adultes, disons pas pour enfants, pour les grands-enfants est de plus en plus fréquent aujourd'hui, sort de plus en plus en salle. On a envie que ce n'est plus un genre cinématographique, mais c'est tout simplement du cinéma qui propose un autre genre d'approche des histoires qu'on veut raconter. Donc Henri a donné quelques exemples. On peut parler de Marjane Satrapi, on peut parler d'Harry Volman pour tout ça, et puis d'autres que j'oublie. Voilà, on va y aller. Et c'est ça qui me fait battre le cœur en ce moment. C'est qu'on y va, voilà, on est au bord, on va y aller, ça va durer un an au moins, mais ça va, on va y aller. Thomas y est déjà, Atam y est à fond jusqu'à là, les Benjamin, Ivan, enfin tout le monde, voilà, on y est tous et on y va. Et je voulais remercier encore une fois Arlette, le Centre Pompidou, la BPI d'avoir eu l'idée de m'inviter, de pouvoir organiser cette soirée. Il y en a deux autres de soirées, hein, c'est trois jours, quatre jours. Voilà, je pense que c'est passionnant pour ceux qui ont envie de continuer. On a encore cinq minutes. S'il y a des commentaires ou des gens qui veulent poser des questions aux uns et aux autres que vous avez vu défiler, on peut le faire, 5-10 minutes, voilà. Ça peut permettre de... ça, je passe d'un micro à l'autre. Ça peut permettre de vous donner la parole, même si je pense que vous êtes assommé par les miennes de parole et par les films. Voilà, donc s'il y a des questions, s'il y a des commentaires, vous êtes les bienvenus. Ah voilà, il y a une question. Tiens, tiens, le micro. Tiens, le micro. C'est pour quelqu'un d'autre que moi.
Merci. Moi, j'avais une petite question pour savoir comment est-ce que vous voyez maintenant le travail en prise de vue continue et en prise de vue image par image, donc en animation et en prise de vue réelle, dit autrement. Est-ce que l'un a changé votre vision de l'autre? Ou est-ce que pour vous, vous ne faites pas une vraie séparation quand vous travaillez pour du cinéma, quoi, au sens large?
Bah, c'est une vraie question, je pense, de quelqu'un qui aime le cinéma, apparemment, parce que c'est vrai que les nouvelles technologies d'aujourd'hui et l'imaginaire qu'on peut déployer pour quand on commence à faire un film peuvent nous poser cette question, si on se la pose, parce qu'il y a probablement des cinéastes qui ne se la posent pas, parce qu'il y a une évidence de mettre en scène des films en prise de vue réelle. Je ne veux pas répondre trop directement à cette question. Je dirais juste si je pense que ça va se faire. Le précédent film que j'ai réalisé, qui s'appelle Paradjanov, en Ukraine, ça donne une piste de réponse à ça. C'est un film en prise de vue réelle, mais dans lequel j'ai tenté de styliser certains nombres de moments de rêve du personnage, d'imaginaire du personnage, en accélérant, en ralentissant, en découpant, en remettant en scène l'image autrement. Parce que Arlette m'a demandé d'écrire un texte, j'ai écrit ce petit texte court, sans prétention, j'espère, qui s'appelle « Une autre image ». C'est ce que j'appelle l'autre image, c'est-à-dire que c'est cette image qui part de l'image, mais qui peut être stylisé, qui peut être transformé, qui peut être pictural, qui peut être esthétiquement traité autrement. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a des outils qui, plus qu'hier, alors que les Nordstein et d'autres l'ont fait avant nous, avec sur des vitres, tout, on n'a rien inventé. Sauf qu'aujourd'hui, ça va un peu plus vite, c'est un peu plus souple. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de jeunes cinéastes qui se coltineront cette autre image qui permet de rêver, de continuer à rêver au cinéma, au lieu de subir cette image assez clinique qu'on a tendance à nous balancer avec le numérique, qui sont un petit peu les résidus de la télévision d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est aussi la télévision qu'on regarde qui nous insuffle cette image, il me semble. Mais ça, c'est un long débat. Et pour répondre à ta question, oui, le cinéma d'animation et ses expériences ont profondément bouleversé mon rapport à la conception de ce qu'est la prise de vue réelle. C'est pas qu'elle m'emmerde, la prise de vue réelle, c'est qu'elle suffit pas. C'est que je pense que quand on met en scène des gens, même vivants dans un décor même réaliste, il est possible de créer des profondeurs de champ, il est possible d'induire des choses qui viennent enrichir, compléter, magnifier, transcender cette image réelle qu'on voit, parce que le cinéma, après tout, elle a beau être, on peut être très réaliste hein, au cinéma, il y en a qui le réussissent magnifiquement, des films en noir et blanc, extrêmement réalistes comme avant, parce qu'il y a un ton, une mise en scène, Mais moi, je suis plus attiré par cette stylisation qui poursuit comme ça, même dans le film documentaire. Et je trouve que, je pense que Pierre est témoin et d'autres, Jean-Michel aussi, Henri aussi, que le cinéma d'animation s'attaque à des documentaires, mais c'est extraordinaire. Le cinéma d'animation est en train de faire des ravages, même pour le documentaire. C'est vraiment formidable. C'est-à-dire qu'on peut raconter des faits absolument réels et peut-être même impossibles à raconter autrement que par l'image créée par le cinéma d'animation. Et ça, je trouve ça formidable, vraiment. Voilà. Merci beaucoup d'être venu, malgré la concurrence très forte. Merci à tous mes camarades qui ont bien voulu venir prêter main forte et d'être présents, parce que je répète pour finir que sans la... avoir du talent, c'est aussi travailler avec des gens qui ont du talent, et c'est de voilà, c'est d'accepter que c'est un travail d'équipe. Merci beaucoup et à bientôt.